Rétrocrime Junior est un podcast présenté par Annie Richard, ancienne éducatrice spécialisée et auteure de plusieurs livres d'enquête à destination des jeunes, ainsi que Jean-Philippe Rousseau, son collègue d'enquête, également auteur aux Éditions de l'Homme. Bien que Rétrocrime Junior soit un podcast destiné à un jeune public, une supervision parentale est recommandée. Pour plus d'informations, consultez junior.rétrocrime.com. Cette fois, nous allons parler d'une histoire de fantôme. Et un fantôme qui hante pas n'importe quel lieu, qui hante un lieu emblématique de Montréal, puisqu'on parle de l'Hôtel de Ville.
En effet, une histoire qu'on a trouvée, en fait, je pense qu'elle est méconnue à ce jour, cette histoire-là, parce qu'on a beaucoup d'histoires du Montréal hanté. Mm-hmm. Mais celle-ci, en tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvée sur Internet en tant que telle. Je l'ai retrouvé évidemment dans les articles de journaux. Et là, on a pu faire notre enquête sur cette histoire-là. Il s'agit d'une histoire, en fait, ça commence par le décès d'un homme qui s'appelait William Darcy, décédé en 1890, à l'âge vénérable de 84 ans. Évidemment, il est mort de sa belle mort, si on peut dire, à un âge avancé. C'était le gardien de l'hôtel de ville, mais aussi le messager. Mm-hmm. William Darcy travaillait pour l'hôtel de ville depuis vraiment longtemps. Ce qu'on dit, en fait, par rapport à ses apparitions, c'est comme s'il n'avait pas voulu quitter l'hôtel de ville, qu'il n'aurait pas voulu quitter ses fonctions. Donc, il y a eu ses funérailles fin décembre 1890. Je pense que William Darcy était quand même assez fortuné parce qu'on disait à cette époque-là qu'il laissait à sa veuve 12 000 $ et qu'il laissait 500 $ à l'orphelinat Saint-Patrice et le même montant à la St. Bridget Holmes. Donc, je pense que tu as fait, Jean-Philippe, à peu près le calcul d'inflation.
Oui, pour les 12 000 $ là, même si on remonte vraiment très, très loin, on parle d'une somme qui équivaudrait aujourd'hui à plus de 320 000 $ Mm-hmm. Puis pour le 500 $ qui a été donné à l'orphelinat, ça équivaudrait à
plus de 13 000, hein,
13 000 $ environ.
Donc, enterré, décédé William Darcy autour de la mi-décembre 1890, arrive dans les journaux quelque chose d'assez sensationnel et peu commun. En 1891, les articles « L'hôtel de ville hanté »,« Y a-t-il des revenants à l'hôtel de ville ?»,« Encore le revenant », là, j'étais absolument fascinée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu des bruits d'abord à l'hôtel de ville, les chauffeurs et les gardiens, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel de ville n'a pas toujours eu la même vocation non plus. Ça a déjà été le palais de justice, ça a déjà été même l'endroit où ce qu'on appelait à l'époque le soubassement. On faisait les premières photos judiciaires des criminels. Il y a tout un historique, mais là, je ne peux pas toute la faire parce que vraiment, il y a eu des vocations, comme je dis, quand même différentes d'une époque à l'autre. Mais ça a déjà été le palais de justice à une certaine époque. Donc, William Darcy, qui est le gardien de l'hôtel de ville et qui a ses appartements à l'hôtel de ville, c'est-à-dire qu'il a son endroit, il réside carrément dans l'hôtel à cet endroit-là, décède. Et là, on dit qu'on le voit se promener dans les escaliers, dans les grands couloirs de l'édifice.
Alors qu'il est mort, on s'en rappelle. Hein? C'est vraiment quelques mois après son décès, là.
Exactement. Et là, on dit bien hein, à l'étage de la cour du recordeur. Donc, c'est là qu'on voit que c'était, entre autres, un établissement qui servait de tribunal aussi. Donc, il y a un certain monsieur Marcel, un des gardiens, qui dit à un des reporters du journal que les premiers jours suivirent le décès du vieux messager de l'hôtel de ville, soit monsieur Darcy, il y a eu 3-4 nuits en ligne où un des fils de M. Marcil, qui dormait là, a entendu des bruits de pas d'un homme qui descendait dans l'escalier. Et là, voyant personne, bon, il a continué, il est retourné au lit.
Ça doit surprendre.
Oui, mais en même temps, c'est une grosse bâtisse. Mais oui. Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'assurer que c'est pas un intrus? Durant toute une autre nuit, ils ont entendu au-dessus de leur tête frapper du pied, comme le ferait un homme à l'époque, pour faire des exercices militaires, apparemment.
Il faut dire que c'était un ancien militaire de, oui. britannique. Hein?
Oui.
Puis, alors, il y a quelque chose d'assez commun quand on regarde des soldats anglais. On peut le voir à la télévision lorsqu'il y a des reportages, par exemple, au palais de Buckingham à Londres. Les soldats de la garde font beaucoup de mouvements de pieds très forts. Tu sais, ils tapent sur le sol dans leur routine, tu sais, quand ils font des relèves de la garde, par exemple. Donc, c'est assez...
J'imagine des parades comme aussi.
Oui, ça peut être des parades, mais juste de relever la garde. Là, on voit qu'il y a tout un cérémonial où ils se font face à face, ça tape du pied, et puis ils font des demi-tours et puis après, ça marche au pas. Donc, il y a toute une synchronisation qui doit se faire et puis c'est assez comment dire, c'est assez bruyant, donc je suis pas étonné.
Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet William Darcy faisait partie, s'était enrôlé dans l'armée anglaise et aurait été en service dans plusieurs endroits dans le monde et il a même fait partie du corps de police de la ville de Montréal.
OK.
Quand même intéressant.
Oui.
Donc, ça, c'est arrivé à peu près autour du 20 février 1891, ces apparitions. En fait, ces bruits-là qu'on a entendus au palais de justice, c'était en effet un peu le cas, mais à l'hôtel de ville de Montréal. Mmh. Et là, on en reparle un petit peu plus. On parle d'apparitions, que ça crée des émois. À la limite, on lit des articles de journaux où on parle de gens qui partent à courir, qui s'enfuient de l'hôtel de ville. Complètement apeuré. C'était, en fait, des apparitions nocturnes qui se renouvelaient. Ça semblait fréquent. À un point tel qu'on en parlait dans les journaux quand même.
Oui,
je veux dire, oui, c'est 1890 et bon, cette décennie-là, qui était peut-être un peu plus propice à tout ce qui était... Il y a quand même eu un engouement paranormal dans ces années-là, mais quand même, on parle d'une tournure quasi tragique. Bon, c'est les journaux aussi hein, qui avaient une façon d'expliquer les choses. Ou une certaine nuit, il y a une servante qui a carrément qui est sortie de là justement en état de surexcitation terrible, qu'on dit, parce qu'elle aurait vu le vieux Darcy, qui l'appelait, le vieux père Darcy, qui est William Darcy, se promener dans les corridors revêtu des insignes du maire. Et là, on l'aurait vu dans l'élévateur, on l'aurait vu dans le soubassement. Et on ajoute même qu'il brandissait avec lui un énorme trousseau de clés bruyant, là, tu sais, qui cliquetait. Là.
Oui, ce qui correspond bien à son emploi de gardien.
Tu sais,
on imagine un gardien, quel que soit le bâtiment, il se balade toujours avec un gros trousseau de clés qui doit ouvrir toutes les portes parce que c'est lui qui a accès à tout et qui doit surveiller. C'est assez incroyable et quasiment cinématographique comme vision. Là, de...
Surtout que si on regarde son nom ou si on va sur Internet et qu'on écrit, admettons, Hôtel de ville hanté, on va avoir certaines affaires sur le Montréal hanté en tant que tel. Ouais. Rien sur William Darcy. William Darcy, on va avoir son topo, on va peut-être même, je crois, avoir une page Wikipédia, mais rien pour dire qu'il a déjà apparemment hanté l'hôtel de ville. Mais là, on parle de plusieurs personnes qui seraient sorties de là en courant. On a cru à un temps à une conspiration pour effrayer la matrone de la police pour l'empêcher de s'installer dans ce qu'ils appelaient les appartements de William Darcy de l'hôtel de ville, c'est-à-dire, j'imagine, son petit logement. Là,
On voulait l'effrayer, On voulait pas que...
Cependant,
un peu spécial, il y a d'autres moyens, me semble.
Il y a ça, il y a aussi que c'est beaucoup de personnes qui seraient dans la machination.
Dans la conspiration, oui.
Donc ensuite, un petit peu plus tard, 26 février, on dit que encore le revenant, un électricien épouvanté par le spectre de l'hôtel de ville, donc vers 3 heures du matin, M. Charbonneau, électricien du département des alarmes de feu, Il allait prêter main forte à son confrère et en s'approchant de l'ascenseur, il faillit, et là je vais utiliser l'expression dite dans les journaux parce que c'est intéressant toujours de voir comment les choses étaient dites, a failli sécher de frayeur en voyant apparaître le spectre de Darcy dans la cage de la machine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ascenseur à l'époque, ce qu'il appelait un élévateur, c'était une cage. On appelait ça une cage, en fait. Puis c'était vraiment grillagé, là. Et bon, c'est sauvé, épouvanté, directement au poste de police, ni plus ni moins. Hein. Il est parti en courant et s'est enfui au poste de police du Vieux-Montréal. On s'en doute parce que c'est dans ce secteur-là. Raconté à un sergent, le sergent Watson, qui a vu le gardien pourtant décédé. Et là, le constable est allé explorer le soubassement et tout ça pour dire « ben là, je vois rien ». Parce qu'évidemment, les apparitions ne sont jamais, sont toujours très éphémères. Finalement, bon, ça a été l'expérience de ce fameux électricien-là. On a eu, c'est ça, quelques articles avec plusieurs personnes qui ont été effrayées par le fantôme de William Darcy. Cependant, on n'en a pas réentendu vraiment parler. Comme je dis, c'est carrément une histoire oubliée. C'est en faisant des recherches pour autre chose qu'on avait découvert ça, je ne sais pas si tu te rappelles, en mettant les mots-clés fantômes, tout ça, parce que c'est d'essayer de voir, parce que de nos jours, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait paraître un peu loufoque, mais à une certaine époque, c'était vraiment pris au sérieux, ces choses-là. La dernière mention qu'on a eue de William Darcy, c'est dans un journal daté du 9 mars 1891, c'est-à-dire juste quelques temps après l'histoire des apparitions. Mm-hmm. Madame Veuve Darcy, la femme qui a survécu à son mari, a dit que les journaux ont exagéré et je cite qu'est-ce qu'elle raconte. Elle dit « Mon pauvre vieux est mort dans le repos et son âme n'est pas dans les couloirs de l'hôtel de ville et n'a plus rien à faire ayant trop bien rempli son devoir toute sa vie. Je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à dire qu'il gémit là encore. » Je vais aller consulter l'avocat de la cité pour voir si on obligera les gens à laisser mon vieux tranquille. Donc, Madame Veuve William Darcy n'était pas contente. Pour elle, c'était comme une insulte ou je ne sais pas quel terme utiliser pour dire que c'est comme si on...
Ben, ça peut se comprendre. Hein? Ouais. Tu sais, quand on a quelqu'un, son mari, sa femme, quelqu'un de son entourage proche qui, dans le fond, qu'on voit en spectre, en fantôme, qu'importe... on a peut-être le côté où on ne veut pas que ça soit, ça devienne un cirque, dans le fond. On parle quand même d'un individu qui est décédé, donc
il y a un côté... Depuis moins d'un an, en plus.
C'est ça, il y a un côté où on veut qu'il y ait du respect, et puis ça tourne un peu à la foire. Là,
oui, absolument.
Donc, même si, ce qui est quand même intéressant, même si je comprends tout à fait le point de vue de sa veuve, c'est que comme tu disais, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Puis c'est pas, on parle pas de gens qui sont, comment dire, n'importe qui. Là. On parle d'un électricien. On parle de gens qui sont, qui ont affaire à l'hôtel de ville. C'est pas des originaux nécessairement. Tu sais, des marginaux qui ont l'habitude de voir des apparitions. Tu sais, même. Si on est, toi puis moi, assez cartésien là, à ce sujet-là, on pense qu'il y a toujours des explications qui sont très rationnelles. Ce qui est intéressant dans cette histoire, malgré tout, c'est qu'il y a plusieurs témoignages qui parlent de la même chose, qui ont vu Darcy. Puis,
qui en aurait été apparemment effrayé.
Au point d'aller voir la police.
Quand même, la police est venue vérifier plus d'une reprise, je crois. J'ai trouvé ça intéressant parce que les histoires vraiment, si on peut dire, relatées de façon soutenue, parce que là, c'est pour pendant peu de temps, mais quand même, quelques jours, sur les apparitions de fantômes sont quand même assez rares dans nos journaux québécois.
Oui.
Et là, ça m'amène à faire le pont vers le même endroit, en fait. Là, dans ce cas-ci, le fantôme serait vraiment William Darcy, puisqu'on le voyait, on le reconnaissait avec son trousseau de clés. Mais
il y a eu d'autres choses qui sont assez des événements dramatiques.
Dramatiques et qui peut même expliquer un certain phénomène, qui peut expliquer peut-être des incidents d'hantise ou d'apparition qui pourraient être survenus aussi à l'hôtel de ville. On sait que l'hôtel de ville était en réfection depuis plusieurs années, même je crois, et que là, bientôt, ça devrait... être terminé, l'endroit devrait réouvrir au public. Mais c'est ça, il y a quelque chose que beaucoup de gens connaissent, que ça a même déjà fait l'objet de certaines visites qui ont été arrêtées, je pense, par justement les travaux qui devaient se faire à l'hôtel de ville. Je ne sais pas si ça va reprendre. J'aimerais beaucoup ça parce que moi, je n'ai pas eu la chance de voir ça. Et je parle des cachots de l'ancienne prison qui ont été découverts sous, justement, l'hôtel de ville et un peu aussi, disons, de la place Vauclin, là où il y a la fontaine et la statue. C'est une découverte qui a été faite en février 1911. Pendant des travaux de rénovation de ce qu'ils appelaient le sous-bassement, c'est-à-dire le sous-sol de l'hôtel de ville, ils ont ouvert un mur et ont découvert que l'autre côté du mur, il y avait un couloir, mais vraiment un couloir. Et là, il était curieux, c'était spécial, évidemment, et on voulait voir c'était quoi. Donc, il y a un des ouvriers qui s'est porté volontaire pour aller explorer ces fameux couloirs-là. Tunnel, couloir, appelons-le comme on veut. On sait que
c'était une ouverture, là, tu sais. Oui,
ça avait l'air d'aller loin.
C'est ça. Et ils ne savaient pas de quoi il s'agissait exactement, donc ils vont voir.
Donc, cet homme-là est parti et apparemment, ça a pris 30 minutes avant qu'il revienne. On s'inquiétait carrément l'appelait.
C'est long, 30 minutes quand même, hein, quand tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en arrière du mur, là.
C'est pas supposé d'aller aussi loin.
Non.
C'est seulement 30 minutes plus tard que l'homme est revenu complètement abasourdi parce qu'il venait d'explorer. Et c'est là qu'il a raconté aux autres ouvriers, « Écoutez, je viens de sillonner une série de voûtes étranges et sombres, des tunnels. » Alors là, évidemment, les gens sont allés eux aussi à la découverte de cet endroit-là. Et pour se rendre compte que, vraisemblablement, les voûtes qu'ils venaient de trouver là, les tunnels, c'était d'anciennes cellules d'une prison. Mais même en 1911, on ne se rappelait pas, peut-être que c'est parce que là, c'était le milieu journalistique avec des ouvriers, on n'avait pas affaire à des gens de patrimoine, à des... Tu sais, parce que ça existait déjà, des gens qui s'occupaient des archives et du patrimoine, mais là, c'est les journaux qui ont traité l'affaire et en plus, ça a même fait une guerre de journaux. Il y a certains journaux qui ont dit, mais ils sont complètement ridicules avec leur histoire de prison, c'est jamais arrivé. L'autre, non, 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 la patrie, ils disent n'importe quoi. Ils sont juste jaloux que ce soit la patrie qui en ait parlé en premier. Tu sais, il y avait des guerres de journaux. Et là, c'est devenu un sujet de prédilection, hein, évidemment. Ce qu'on a découvert dans ces tunnels-là, c'est d'anciennes cellules, entre autres, mais aussi les cachots. Des cachots qui servaient à mettre les prisonniers peut-être plus dangereux ou plus...
Les isoler.
Une forme d'isolement. Ouais. Mais pire encore, on a retrouvé, parce que bon, c'est une prison qui datait avant les Patriotes. Il y a même certains Patriotes qui avaient été emprisonnés là avant que la prison du Pied du Courant, que certains reconnaîtront, c'est juste devant la ronde sur la rue Notre-Dame, tout près du pont Jean-Cartier, c'est la prison au Pied du Courant. Qui a remplacé, en fait, cette prison-là qui était sous le... Ben, qui était là où il y a maintenant l'hôtel de ville, mais qu'on a conservé seulement le sous-bassement qu'on n'a pas voulu peut-être remplir, je ne sais pas comment
dire. Oui, c'était peut-être un peu trop compliqué, puis ils se sont dit, on va juste le recouvrir, puis le fermer. Puis,
d'abord,
voilà.
Qu'il y a des tunnels partout, on le sait, puis c'est pas une légende urbaine. Il y a quand même un souterrain dans le vieux Montréal et dans le centre-ville quand même assez impressionnant. Et aussi parce que ça a servi apparemment d'endroit pour conserver des archives, notamment des archives judiciaires écrites sur du papier de coton, qui était vraiment un ancien procédé. Et là, c'est ça, ça a été une belle découverte, mais en même temps plutôt sombre, parce qu'on s'est rendu compte que les cachots contenaient, entre autres, un énorme anneau de fer qui servait à emprisonner, enchaîner, ni plus ni moins, les criminels qui étaient peut-être plus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, là, disons-le comme ça.
Et... Ouais, disons qu'ils étaient entravés tout le temps. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où on va amener un prisonnier menotté jusqu'à sa cellule, puis après on lui enlever ses menottes. Il va être libre à l'intérieur de sa cellule. Il sera pas entravé avec des chaînes, mais à l'époque... et puis apparemment, c'était le cas dans cette prison. Eh bien, ils étaient tous enchaînés tout le temps, toute la journée. Donc, c'est des conditions qui sont assez... qui sont pas aussi... Ouais, très difficiles, qui sont pas aussi humaines qu'aujourd'hui, par exemple.
Et d'ailleurs, justement, c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y a eu un déclin de cette prison-là qui était pourtant pas si vieille que ça. Mais les archives de la ville de Montréal nous permettent de faire plus la lumière un peu justement sur notamment cette découverte de 1911, mais aussi sur la prison en tant que telle qui était là avant l'hôtel de ville. Oui, il y a bel et bien eu une prison là, sous la place Vauclin, l'hôtel de ville. Elle a été érigée en 1808, mais elle avait déjà très mauvaise réputation à cause des conditions sanitaires dans lesquelles elle se trouvait seulement 20 ans plus tard, après le début, si on peut dire l'inauguration de cet endroit de détention-là. Et ce qui a vraiment amené le déclin totalement, c'est un scandale qui est survenu en 1835, qui a entaché vraiment la réputation de l'établissement. C'est parce qu'un itinérant qui avait été arrêté à l'époque pour un chef d'accusation qui s'appelait vagabondage, c'est-à-dire qu'il errait, qui était itinérant. C'était pas possible à cette époque-là. Il s'appelait John Collins. Il a été arrêté. Puis, au moment de son arrestation, il se disait déjà malade. Il avait besoin de soins. C'était l'automne. Il faisait déjà un peu froid. On l'a enfermé dans la prison. Mais il a demandé de l'aide et même les co-détenus, en fait, ont demandé à ce que John Collins soit vu par un médecin qui a déterminé que tout était beau, il n'y avait pas de problème. Finalement, on a retrouvé John Collins décédé, attaché à l'anneau, avec deux autres détenus qui tentaient de le réchauffer entre les deux, enchaînés, là. Vraiment des conditions...
Inhumaines.
Et pour l'époque, qui était plus dure qu'aujourd'hui, déjà, on avait trouvé ça scandaleux. C'est ce qui s'est passé. Puis en plus, nous, on a sorti l'enquête du coroner, Jean-Philippe. Ça a été vraiment impressionnant de sortir ça parce que c'est la plus vieille à ce jour qu'on a sorti, la plus ancienne, parce qu'elle date du 10 décembre 1835. Donc, cette enquête du coroner-là nous démontre que John Collins est décédé de privation de nourriture et d'hypothermie. Les fenêtres étaient ouvertes. On lui aurait refusé une couverture. C'est difficile à lire quand même, là, comme enquête du coroner.
C'est quelqu'un qui est mort de faim et de froid.
Avec des détenus qui essayent de le réchauffer.
C'est ça.
Enchaîné après un anneau de fer.
C'est difficilement imaginable.
Absolument. Et là, l'enquête, c'est sûr que démontre qu'il y a un garde de prison. Du nom de Edward Holland, qui a été responsable, en fait, qui a été nommé responsable de la mort de John Collins parce que c'est une des personnes qui délibérément a refusé d'apporter les soins nécessaires à la vie, en fait, de cette personne-là.
Puis même s'il est responsable, je pense qu'il n'était pas tout seul parce que tu parlais du médecin tantôt. Je pense qu'il a peut-être aussi servi de fusible ou de bouc émissaire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en tant que gardien, il avait sa part de responsabilité, ça c'est évident.
Oui, puis c'est ce qui a donné le déclin, en fait, de cette prison-là, avant de construire la prison au pied du courant, qui est tout près du pont Jean-Cartier sur la rue Notre-Dame. L'histoire des cachots et l'histoire du décès de John Collins fait partie, malheureusement, de l'histoire criminelle, judiciaire, voire même pénitentiaire de la ville de Montréal. On peut pas vraiment... c'est l'histoire qui s'est passée, on peut pas l'effacer, mais c'est quand même probablement une des choses qui a fait améliorer le système, même si on parle de quelque chose d'extrêmement ancien. Puis ça fait partie de l'histoire de l'hôtel de ville autant que l'histoire de William Darcy.